wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Fabienne Pascaud et Anna Sigalevitch se font face à notre affiche Victor de Pina Bausch, Théâtre du Châtelet dans la programmation du Théâtre de la Ville. Le voyage en Uruguay de Clément Hervieux-Léger, mise en scène Daniel San Pedro au Lucernaire. Nous passerons en fin d'émission un coup de fil à Catherine Bizouane, la directrice de la Halograin, scène nationale de Blois. Au cours de cette émission, comme chaque soir, vers 21h20, Lucille Gaumont nous invitera à débattre autour d'une question liée à l'actualité culturelle dans le petit salon. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le festival America, littérature et culture d'Amérique du Nord, qui se déroule du 8 au 11 septembre à Vincennes. Et nous ouvrons cette émission avec Pina Bausch, même si la chorégraphe allemande est morte il y a 7 ans maintenant, sa compagnie continue à proposer son répertoire. C'est le cas avec la première des pièces que Pina Bausch créa hors de son terrain de jeu habituel de Wuppertal, Victor, présenté pour la première fois à Rome en 1986 à l'issue d'une résidence de création de 3 semaines, expérience qu'elle renouvellera par la suite dans d'autres villes comme Hong Kong, Palerme, Budapest, Rio, Tokyo et quelques autres, créées en écho au contact de chacun de ses interprètes et de la chorégraphe elle-même avec la ville éternelle. Victor est un spectacle, on prévient tout de suite à nos auditeurs, Fabienne, qui dure un peu plus de 3 heures. Les carnets de balles sont pleins, mesdames, donc je n'ai pas osé vous proposer cette valse. Parlons plutôt de ce spectacle, Victor. Je commence avec vous, Anna Sigalevitch.
Eh bien, ce spectacle, Victor, alors ce n'est pas ma pièce préférée de Pina Bausch. Ce n'est pas une pièce que je place au niveau de chef-d'œuvre, que je considère comme chef-d'œuvre, comme Contact Off, ou comme Nelken, ou comme Le Sacre du Printemps, bon, et beaucoup d'autres qu'on a pu voir d'elle. Mais ça m'a quand même beaucoup plu, parce que je trouve qu'il y a des idées absolument magnifiques et qu'il y a des vrais moments de grâce dans le spectacle. Je veux dire que ça faisait au moins 2 ans que je n'avais pas vu la compagnie, et je me suis rendu compte donc en voyant cette première en présentation samedi à quel point elle était précieuse, à quel point elle est précieuse tant pour ce qu'elle a tant pour ce qu'elle est aujourd'hui que ce qu'elle a été, que ce qu'elle a apporté aux chorégraphes d'aujourd'hui, et puis de ce qu'elle m'a apporté moi en fait comme spectatrice dans mon histoire de spectatrice, en fait, je dois dire, parce que c'est quand même une sensibilité, un regard sur l'humain qui est d'une acuité et d'une finesse que je trouve franchement unique. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce spectacle qui est où la scène est vraiment un espace de liberté pour les interprètes, où l'enjeu c'est ça, c'est de donner de soi, c'est de se mettre à nu, c'est de faire de ses fragilités une force, cet art que Pinabauche avait de transcender, de sublimer les blessures de chacun et de les rendre absolument belles et monstrueusement émouvantes pour les spectateurs en scène. Donc j'ai ressenti tout ça, même si, voilà, je trouve qu'il y a des longueurs, tout ça, mais quand même, j'ai été très, très heureuse de voir le spectacle.
Vous nous expliquerez tout à l'heure plus en détail ce que vous avez particulièrement apprécié et peut-être ce que vous avez moins apprécié, mais pour l'instant, on a eu un sentiment général, mais pas d'image. Peut-être que Fabienne Pascaud va nous donner quelques-unes pour parler un peu de la construction compliquée de ce spectacle, Fabienne.
Alors moi, d'abord, je n'aurais pas su que le spectacle avait été inspiré par Rome, ce que j'ai découvert après en regardant le programme et le dossier de presse, comme je le fais chaque fois. Je ne l'aurais pas compris ou pas deviné du tout. Je m'étais même inventé tout un film.
Ça, c'est intéressant.
Oui, un film qui avait un lien forcément avec le nazisme, avec la Shoah, parce que quand on arrive, on voit ces tertres de terre tout autour, de tombes, et on a l'impression qu'il y a un danseur qui lance des pelletées de terre, donc on se dit qu'il va enterrer dans une trappe géante des tonnes de danseurs, des centaines de danseurs qui pourraient être les juifs exterminés. Donc moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Et quand j'ai découvert que dans cette atmosphère sombre, obscure, noire, elle prétendait notre grande Pina Bausch nous raconter Rome, alors là, j'ai été assez éberluée.
Mais est-ce que vous êtes refait le film du spectacle après, sachant cela ? Est-ce que vous l'avez repensé différemment ?
Je n'ai toujours pas compris comme quoi on emporte ses obsessions avec soi ou qu'on aille. Hein,
c'est ça, mais moi, j'ai ressenti comme vous, hein, Fabienne.
Vous l'avez ressenti comme moi. Moi, j'ai eu l'impression que ça racontait la mort, que ça racontait les morts vivants, que ça racontait ça non-stop. Donc, c'est vrai que qu'elle soit à Wuppertal ou à Palerme ou à Tokyo, eh bien, c'est sa mémoire qu'elle transporte. Alors, ça commence formidablement avec cette femme en rouge qui débarque sans bras. Donc, on est stupéfait.
En robe rouge, oui.
Oui, telle une victoire de Samothrace, sauf que, bon, elle a l'air victorieuse, mais elle a quand même pas de bras.
Elle est très souriante.
Elle est très souriante, contente, mais il lui manque quand même les bras. Donc, bon, mais ça, c'est tout. Pina Bausch, c'est rire de la souffrance, rire de la douleur. Moi, je suis moins convaincue qu'Anna, parce que je me demande, alors, c'est pas non plus le meilleur Pina Bausch qu'on ait pu voir, enfin, pour moi, en ce qui me concerne. Je me demande quel est l'intérêt de faire revivre ces créations 30 ans après. Alors, en même temps, j'ai beaucoup admiré le travail de la troupe, le travail de transmission, parce que Dominique Merci, sûrement Elena Picon et puis d'autres encore savent admirablement passer le relais à des jeunes qu'on voit. On voit des anciens qu'on reconnaît, qui ont admirablement vieilli. Ils ont à peine changé d'ailleurs. Et puis on voit des jeunes qui arrivent. Donc, et tout ça, c'est excessivement fluide et c'est assez beau, ce travail de transmission. Mais en même temps, une mise en scène, si brillante soit-elle, un spectacle, si brillant soit-il, il est fait par le créateur, par le metteur en scène ou le chorégraphe, pour un instant T, à un moment donné de la société, à un moment donné de ce qu'on vit, du temps présent. 30 ans après, reconstitué même génialement, ça ne répond plus aux mêmes exigences, aux mêmes nécessités. À quoi bon, finalement ?
Oui, mais là, ça pose des questions qui pourraient être l'objet qui seront certainement l'objet d'un petit salon un de ces lundis soirs. C'est la question du répertoire, notamment en danse, parce que Pina Bausch, elle a constitué un répertoire et de son vivant, elle a joué, rejoué.
Les Allemands jusqu'à font beaucoup ça. Ostermayer fait ça aussi.
Et Pina Bausch, elle a joué Café Müller, Contact Off, du moment où elle a été créée jusqu'à sa disparition. Donc, c'est la question du répertoire se posait chez elle de façon très claire et je pense qu'elle aurait, enfin on peut toujours prêter ce qu'on veut aux morts, mais peut-être sans doute repris cette pièce pour une occasion ou une autre.
Oui, mais à côté, Merce Cunningham, il décide que sa compagnie mourra avec lui.
Ah mais, fait ce qu'il veut. Et voilà. Seul DeWitt, une fois mort, il y a des seuls
DeWitt. Je crois que je suis plutôt dans la tendance Merce Cunningham.
Il y a les seuls DeWitt originaux qui continuent après sa mort. Mais ça, en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué de parler de ce spectacle, d'abord parce qu'il est quand même très profus. C'est vrai qu'il y a deux parties d'1h30, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Une succession de moments, on va dire, qui fonctionne beaucoup sur la répétition, sur la durée. Alors, c'est une chose que j'apprécie volontiers, mais c'est pas forcément systématique. Et puis il y a cette scénographie que vous avez évoquée, qui est quand même très simple et en même temps très imposante, parce qu'effectivement on a l'impression que c'est d'une immense tombe à ciel ouvert, qui bientôt ils seront ensevelis. Il y a beaucoup de morts, hein, de toute façon. Il y a quand même toute une dimension de un caractère de rite funéraire. Et là, pour le coup, qui quand même renvoie aussi à l'Italie. D'ailleurs, parmi pour moi, les faiblesses du spectacle, c'est dans la deuxième partie ce personnage de vieille femme italienne avec son fichu noir et son grand bâton.
Ah, c'est la mort pour moi.
Ouais, mais qui est une figure vraiment de vieille sicilienne c'est d'ailleurs Dominique Mercier. Oui, on s'en aperçoit au bout d'un moment, oui. Puisque quand il remet son fichu, je trouvais que c'était un peu lourd et un peu cliché sur l'Italie, mais. Par exemple, il y a une chose qui est très frappante, c'est la condition de la femme. Et là, je pense que ce sont quand même des choses vues en Italie à ce moment-là qui sont dans le spectacle de femmes objets, femmes maltraitées, femmes utilisées. Enfin, ça ne vous a pas frappé, Anna?
Si, mais c'est ce qu'elle met dans tous ces spectacles en même temps. Dans tous ces spectacles, il y a la femme utilisée, objet,
mais là,
etc.
D'une façon...
La manière qu'elle a de jouer avec la chevelure des femmes, par exemple, comme en leitmotiv, ces femmes qui bougent la tête d'avant en arrière, qui jouent énormément de leur chevelure baudelairienne est magnifique, mais en même temps, elle en fait des femmes objets.
Complètement.
Donc, alors, elle dénonce ça, mais en même temps, elle s'en repaît, Pina Bausch. C'est très ambigu et très pervers, et peut-être pas aussi féministe qu'on pourrait le penser.
Anna Segalevitch.
Oui, mais elle inverse, c'est-à-dire qu'on part dans une direction, c'est-à-dire que les femmes sont effectivement comme des objets, elles sont il y a un moment donné où il y a une chorégraphie, elles dansent toutes ensemble et puis elles sont chassées par l'épouvantail et sont reléguées au second plan, regardées par les hommes, etc. Ça commence comme ça, mais la deuxième fois comme il y a beaucoup de répétitions, après c'est les hommes qui font
la
ça aussi
fois,
donc
ouais.
peut-être la troisième fois.
Les femmes le font deux fois.
Les femmes le font deux fois puis les hommes.
C'est très très beau les hommes, c'est pas du tout la même danse par ailleurs.
Non, c'est pas la même danse, mais bon, c'est des rapports qui s'inversent, c'est-à-dire que oui, elle prend des chemins, puis finalement, je trouve qu'elle les détourne, finalement, elle les contourne de façon quasiment systématique. Donc moi, je trouve pas que ce soit forcément manichéen dans ce que ça dans ce que ça raconte sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et puis ce que vous dites est intéressant sur le fait comment reprendre un répertoire, etc. Est-ce que c'est pas compliqué? Alors oui, et en même temps. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est comment on voit la pièce 30 ans après. Et donc, forcément, le contexte dans lequel on la voit influe sur notre vision du spectacle. Et bon. Là, en l'occurrence, moi, j'ai vu la figure de Pina Bausch absolument partout. C'est-à-dire que le spectacle s'appelle Victor. Victor, qui est Victor? C'est en fait un esprit, hein, il faut expliquer. Donc, il y a une jeune femme qui est rousse, qui fait partie d'ailleurs des nouveaux arrivants, des jeunes recrues.
Qui est absolument magnétique,
qui s'appelle Brianna O'Mara.
Ah, vous avez son nom?
Eh bien sûr, j'ai cherché.
Formidable. Parce que vraiment, ils sont une trentaine sur le plateau, mais elle a une force. D'ailleurs, elle mène le final et elle est absolument prodigieuse.
Elle est absolument prodigieuse. Et donc, cette Brianna O'Mara.
Bravo.
Elle est assise sur scène, les jambes devant. Elle commence une chorégraphie donc très à la Pina Bausch, avec les cheveux qui volent, une chorégraphie de buste à la fois sensuelle, lyrique et douloureuse. Tout ça en même temps, elle s'avance petit à petit. Et puis après, elle écarte ses cheveux et là, elle dit en playback « Je suis Victor, je suis revenue, mais je suis gentille. Est-ce que je peux rester avec vous? Je tiens la porte quand il y a des courants d'air, etc. » Ça, elle le dit en playback. Donc c'est évidemment une autre voix, etc. Et donc du coup, pour moi, la figure de Victor, c'est la figure de Pina Bausch. Et elle plane comme ça sur tout le spectacle. Et il y a un rapport du coup qui s'installe entre les anciens, les nouveaux, les fantômes, les esprits, qui moi m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait, il faut imaginer pour les auditeurs, donc qu'il y a quand même 5 ou 6 danseurs qui sont vraiment des historiques. Hein. La jeune femme blonde, enfin qui n'est plus très jeune, hein, pardon, mais donc qui est Julie Shanahan, elle est chez Pina Bausch depuis 1988. Nazareth Panadero depuis 79. Dominique Mercier depuis 74. Christiana Morganti depuis 93. Et Julianne Stanzak, l'américaine très belle, depuis 86. Donc vous imaginez, c'est des gens qui sont dans cette troupe depuis donc plus de 30 ans, certains, et qui sont presque comme... Enfin, moi, je les ressens presque comme des personnages de feuilleton. C'est-à-dire qu'ils ne sont que chez Pina Bausch, et on les retrouve comme ça chaque année, ou tous les 2 ans, enfin, en tout cas, quand on va voir les spectacles, et c'est toujours les mêmes, etc. Et on est attaché à eux, c'est presque comme une réunion de famille de les retrouver presque comme une madeleine, où je suis heureuse de pouvoir encore les voir. Et la façon dont ils transmettent le répertoire aux jeunes générations et de les voir ensemble, c'est quand même magnifique de voir cette énergie et ce répertoire circuler, parce que les jeunes insufflent, donc comme cette jeune femme et comme d'autres, une jeunesse... Brianna O'Mara, il y en a aussi d'autres. Une jeunesse, une fraîcheur, une vitalité, un souffle nouveau.
Une intensité autre.
Qui, je trouve, fait que ce répertoire est vivant et que je pense qu'il peut encore continuer sans que ce soit mortifère ou muséal.
On peut imaginer que ça continue sans qu'il n'y ait plus d'historique et que tout ça puisse continuer sur plusieurs générations.
Oui.
Ça pourrait ne plus avoir de fin. Enfin, on ne sera plus là pour en parler. Pascot, rassurez-vous.
Mais d'ailleurs, le spectacle lui-même n'a pas de fin. Et non. C'est ce qu'elle nous raconte, puisque
ça
se termine comme ça a commencé. Ouais. C'est un éternel retour. Oui, une boucle. Oui. Vous avez tout à fait raison, mais en même temps, on n'a plus le même choc qu'on a pu l'avoir au début, parce que quand on regarde
mais
ça...
Mais il y a des gens pour qui c'est la première fois,
oui,
Fabienne.
Oui, mais pour moi, c'était la première fois, parce que je n'avais pas
de voir Pina Bausch tout court.
Ah oui, de voir Pina Bausch tout court, oui,
et
sans
c'est la
doute.
Chance qu'on a à Paris d'avoir... quasiment effectivement chaque année des pièces maintenant forcément anciennes, mais ce sera toujours la première fois pour quelqu'un.
Oui, mais en même temps ce que disait Anna par exemple, la première fois qu'on la voyait, on était étonné de tous ces corps dissemblables. Par exemple, il y en avait des gros, il y en avait des très filiformes,
des grands, des petits,
des grands, des petits, des beaux, des pas beaux, et ça c'était vraiment un choc de quelqu'un qui osait montrer des corps différents sur scène, qui osait des paroles. Là, il parle pas beaucoup. Il joue, mais il ne parle pas beaucoup. Mais la différence de ces chocs, les transgenres, par exemple, jouer du masculin et du féminin comme elle le faisait, c'était vraiment éblouissant et très, très dérangeant, presque. Là, c'est passé dans la norme.
Sûr.
On se rend même plus compte. Donc, c'est quand même...
C'est l'héritage.
L'héritage, mais pour les jeunes générations qui la découvrent, bon, Pina Bausch, elle ferait... Je ne suis pas sûre qu'elle ferait ça aujourd'hui. Je pense qu'elle se serait adaptée. Comme Gérard Philippe ne jouerait plus aujourd'hui comme il jouait le prince de Hombourg, ou Sarah Bernard, quand on l'entend. Je pense que ces grands génies-là nous feraient d'autres choses. Alors, est-ce que ce n'est pas les trahir que de les remonter sans fin ?
Question reste ouverte, parce qu'on n'aura pas la réponse ce soir. Quand même, une petite dernière, petite dernière question sur la bande-son, le travail musical. Alors, là aussi, très riche, parce que ça parle peu. Mais alors, il y a beaucoup de musique, Anna Segalevich.
Oui, il y a beaucoup de musique, quasiment tout le temps. Alors, moi, c'est... Je suis un peu comme vous, Fabienne, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu tant d'italiennité.
Italien traditionnel,
oui,
extrêmement lancinant.
Il y a cette grande valse. Moi, j'ai surtout retenu le chant uruguayen ou péruvien, je ne sais pas, je trouve qu'il est très marquant et très beau. Et puis, il y a beaucoup de Fred Astaire quand même. Enfin, ça, c'est pas très italien quand même.
Et c'est là où c'est le mieux.
Là où c'est le mieux, franchement, c'est génial. Toutes les parties avec Fred Astaire, c'est ça. Et puis, il y a quelques moments, les moments de grâce, j'aimerais quand même les dire, enfin, pour moi, un petit peu. Il y a par exemple deux moments que je trouve d'une liberté folle, qui sont très simples, pourtant, mais ces moments où il y a une paire d'anneaux, enfin deux paires d'anneaux, des anneaux, les agrès, on a vu beaucoup là,
c'est
les géos, voilà. Et les femmes,
elles montent très haut dans les seins,
elles montent très haut, et puis elles se balancent sur les agrès, bon, c'est très simple, mais le visage qu'elles ont à ce moment-là est complètement stupéfiant, parce que on voit, elles sont trop contentes et elles ont vraiment des visages d'enfants de 5 ans. D'un coup, elles se transforment complètement et c'est fait d'une façon que je trouve très très belle. Il y a aussi un moment très simple, des tartines de beurre. Elles sont là sur scène, il y a des tables qui sont installées. Et puis, il y a Julianne Stanza qui commence
à beurrer les tartines.
L'autre qui
mélange confiture.
De la confiture de fraises, etc. Puis elle commence à aller les
distribuer. Vous en
avez une ? J'en ai une, oui.
C'est pour ça que vous savez que c'est de la fraise. Moi, j'ai acheté des cartes postales, chacun son truc.
Voilà, moi aussi, j'ai fait les deux. Ah, vous avez acheté en vrai pendant le spectacle des cartes postales ?
Bah oui.
Ah, c'était possible ?
Mais bien sûr, parce qu'effectivement, on passe plusieurs fois dans la salle, il y a différents moments qui se passent dans la salle, et notamment un démarcheur très italien,
oui,
pour
ça,
le
c'est
coup,
très
un très
italien,
assistant.
Absolument. Hein ? Non, ça c'est très italien, il y a aussi le moment du restaurant et des spaghettis qui est très très italien, qui est très drôle.
Oui.
Voilà, mais bon, donc il y a quelques moments, je trouve, d'une fraîcheur... Absolument.
Il y en a des épouvantables quand même.
Ah, allez, un épouvantable, Fabienne.
Ah bah, la femme Fontaine, quand même, cette femme que deux hommes...
Dans l'instrumentalisation, on ne peut pas faire
on
pire.
On l'instrumentalise, alors il y a une femme pour essayer de décrire à nos auditeurs, une femme qui a la tête penchée vers l'arrière, dont on remplit la gorge d'eau, et une fois qu'elle a la bouche bien pleine, elle crache son eau tout doucement comme un jet pour venir laver les pieds, les mollets ou le visage d'hommes qui attendent ce jet qu'elle leur déverse voluptueusement. Ça, c'est insupportable.
Bah, les fontaines
pour moi, c'est insupportable.
Non, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, ça m'a
les fontaines de Rome, Fabienne.
Oui, oui. Eh ben non, pas ça. Je préfère celle-ci. Quand c'est la belle créature de Fellini qui s'y promène.
Nous sommes d'accord. Voilà. Philippe Benaboche, qu'on a vu dans Fellini, bien sûr, dans Elena Veva. C'était la rencontre avec l'Italie, sans doute, à ce moment-là. Et l'envie d'y revenir travailler. Alors, Victor se joue quand même jusqu'au 12 septembre, parce qu'il a un certain nombre de représentations. Donc, c'est au Théâtre de la Ville, avec le Théâtre du Châtelet. Le Théâtre de la Ville, vous le savez, est en travaux. Propose ses productions un peu partout dans Paris et dans la région parisienne. En l'occurrence, ce Victor est présenté au Théâtre du Châtelet jusqu'au 12 septembre.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure du voyage en Uruguay de Clément Hervieux-Léger dans une mise en scène de Daniel San Pedro interprétée par Guillaume Ravoir. Et puis nous passerons en fin d'émission un coup de fil à la directrice de la Halograin à Blois, Catherine Bizouarn. Avant tout cela, il est grand temps de suivre Lucille Gomeau dans le Petit Salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Au programme ce soir.
Ce soir, une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas en cette rentrée théâtrale de nomination dans les grandes scènes françaises, du moins pas pour le moment, mais de la nomination à la tête d'une scène polonaise, en l'occurrence celle de Wrocław. Je m'excuse par avance de mon accent polonais qui est, je pense, désastreux. Wrocław, donc la ville aux 12 ponts, ou la Venise polonaise pour les clichés, mais ces clichés disent quelque chose, ils disent la richesse de la ville, une richesse architecturale et culturelle. La ville a d'ailleurs été nommée capitale européenne de la culture cette année. Une ville très étudiante qui abrite un grand musée d'art contemporain et un théâtre. Un théâtre qui est à la pointe de la création depuis des dizaines d'années. Enfin, qui était ? Le 30 août dernier a été nommé à la tête du théâtre Polski un certain Cezary Morawski, dont la nomination fait débat depuis des semaines. Il faut dire que cette nomination fait suite au limogeage du précédent directeur du théâtre, Krzysztof Miskowski, qui a payé cher son engagement croissant dans l'opposition au gouvernement conservateur et subit la dérive autoritaire d'un gouvernement qui inquiète ces derniers mois les élites culturelles et pro-européennes dont il s'était fait le porte-voix. Alors qui est Cezary Morawski, nouveau directeur d'un des théâtres les plus novateurs d'Europe? La plupart des Polonais le connaissent pour un rôle dans une série télévisée, mais surtout parce qu'il a incarné dans un film de 81 la personnalité sans doute la plus populaire et surtout la plus revendiquée par le parti nationaliste au pouvoir, à savoir Jean-Paul II, enfant du pays s'il en est. Morawski n'est cependant pas complètement étranger au milieu du théâtre, puisqu'il a été trésorier pendant un temps de l'Union des artistes des scènes polonaises, à noter quand même qu'il a été condamné pour sa gestion calamiteuse des finances. Bref, Krystian Lupa, metteur en scène polonais dont on a pu voir un spectacle à Avignon et qui est par ailleurs l'invité du Festival d'automne à Paris, est aux abois. Il est un des leaders de la contestation, au nom d'une certaine idée du théâtre, mais aussi de l'Europe, dans un temps de crispation des identités qui n'épargne pas la culture. En fait, si on examine le processus de plus près, cette nomination n'est pas vraiment le fait de Varsovie, mais d'une décision locale auquel ses opposants reprochent son opacité. Krystian Lupa, qui faisait partie de la commission, dénonce des irrégularités dans le processus, une mascarade. En gros, la décision de nommer Morawski aurait été prise bien avant qu'il soit auditionné. Alors, ces protestations n'ont pas abouti. Krystian Lupa a finalement décidé d'annuler la première du spectacle qu'il devait créer en octobre au Théâtre Polski, après 6 semaines de répétition quand même avec des dizaines d'acteurs, et qui était, ironie du sort, une adaptation du Procès de Kafka. Krystian Lupa est aujourd'hui, faut-il le rappeler, un metteur en scène star. Ses spectacles tournent partout, en ce moment à Barcelone, dans quelques jours au Japon. Il a probablement moins à perdre dans cette affaire que le théâtre polonais. Si le théâtre Polski perd Lupa, on peut imaginer quel sera le désastre. Alors, fallait-il pour lui quitter la scène dans ces conditions ou rester sur place et résister ?
Oui, il résiste, hein, Krystian Lupa. D'ailleurs, c'est pas seulement la première qui est annulée. Ce sont toutes les représentations du spectacle spectacle Le Procès, qui verra peut-être le jour à Paris, à Londres, à Berlin ou ailleurs. Cette nomination qui étonne d'autant plus que, je vais dire comme vous, un Wroclaw.
Non, mais je sais comment on dit. On dit Wrocław. Non, sérieusement, je vous
parle. Sérieux ? Non, c'est vrai, c'est un peu ça.
On dit Wrocław. Je sais parce que la première metteur en scène avec qui j'ai travaillé était polonaise et elle était de Wrocław, elle disait.
Wrocław.
On dit vraiment Wrocław. Non, vous pouvez le dire, j'en suis sûre.
Wrocław est capitale européenne de la culture cette année. Ça vous avait peut-être échappé, mais en tout cas, c'est le cas. Effectivement, le programme de Morawski, pour ce qu'on en connaît pour l'instant, c'est monter un spectacle sur Jean-Paul II, mettre en scène des grandes œuvres du répertoire national et patriotique. Comment est-ce que vous entendez tout cela, Fabienne Pascaud ?
Déjà saluer le geste de Lupa, parce que c'est pas si fréquent des metteurs en scène qui annulent des productions, même si Christiane Lupa est une star internationale, produire des spectacles surtout en Pologne et même dans le monde, c'est pas toujours aussi simple, donc je salue l'artiste et son courage politique. Je sais pas si tout le monde le ferait la même chose en France, mais enfin bon, bref, en tout cas, lui, je le salue. Et puis dire que c'est triste pour le théâtre, parce que grâce à Christian Lupa, on a vu la troupe de ce théâtre Polski, notamment, qui interprétait des arbres à abattre à Avignon, qu'on va revoir
cet automne à Paris dans le festival d'automne.
Vraiment, ce sont des comédiens sublimissimes, prodigieux, d'intériorité, d'intensité, qui sont capables de suggérer le tout avec le rien, sans parler, magnifique. Donc je mesure le drame de ces acteurs d'exception aux prises avec le répertoire patriotique ou devant jouer et rejouer Jean-Paul II au Vatican, ça va pas être drôle pour eux, quoi.
Non, Anna Segalevitch.
Oui, c'est assez inquiétant en effet, parce que apparemment le projet donc de ce Morawski, c'est de pourquoi pas écrire une pièce sur, enfin mettre en scène une pièce sur un spectacle sur Jean-Paul II, de mettre en scène les grandes œuvres patriotiques, nationales et patriotiques, et de remplir le théâtre
à 100%.
Ouais, voilà, hein, donc c'est les trois objectifs. Donc effectivement, ça fait rêver. Puis quand on lit un peu comment ça s'est passé, c'est monstrueux. Enfin, il y avait apparemment 6 candidats, et sur les 8 membres qui étaient dans le jury, il y en a 6 qui ont voté pour ce Morawski, alors qu'il y avait 2 candidats qui avaient envie d'être directeur mais qui voulaient garder Miskovski comme directeur artistique. Et Lupa dit clairement que c'est grâce à Miskovski qu'il a pu monter ses dernières créations, donc c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Apparemment Miskovski est tombé aussi en désamour, enfin, parce qu'il aurait monté une pièce de, enfin, il aurait laissé monter une pièce de,
tout à fait, l'année dernière, qui a été censurée d'ailleurs, voilà, parce qu'il y avait des acteurs qui venaient du milieu pornographique dans la pièce.
Et puis Yelinek, ça va pas arranger.
C'est ça. Mais on a l'impression qu'on retourne en Union soviétique, quoi. C'est ça, avec un petit de théâtre, une forme possible, bon, dans un autre genre, hein, bien sûr, mais une forme possible ou pas, et ça fait penser bien sûr à la Hongrie, enfin, en tout cas à tous ces endroits. Ou comment il s'appelle, Attila Vidmanski, qui a été lui nommé par Orban, mais qui clairement plaide pour un théâtre à l'esthétique nationale. Donc
lu ce matin qu'en Turquie, hein, ça y est, les compagnies de théâtre ne peuvent plus mettre en scène des œuvres écrites par les auteurs occidentaux. Donc il y avait des saisons prévues, donc pas de Shakespeare, pas de Chekhov, pas de Dario Fo. Et donc le vice-président des théâtres du pays affirme vouloir promouvoir la culture turque, je le cite, comme toutes les personnes qui aiment leur pays, nous allons ouvrir nos salles uniquement aux œuvres nationales afin de conserver et renforcer l'intégrité et l'unité du pays ainsi que le sentiment national. Bon, on sait que ça va bien en Turquie depuis quelques temps.
Non, mais c'est ça, c'est la censure.
La reprise en main de tous les côtés.
Oui, mais où sont les soutiens d'Andrei Severin, de Christophe Varlikovski? On les attend. Hein. Notre cher Varlikovski, que j'aime d'ailleurs beaucoup, il nous fait des leçons de morale politique sur ce qui se passe en France à longueur de spectacle. Pourquoi il ne soutient pas publiquement son ami Christian Lupa?
Il a beaucoup à perdre, parce que lui, en fait, il est à Varsovie. Il faut quand même dire qu'à Varsovie, pour le coup, la situation des théâtres, elle est extrêmement bonne. Il y a quand même 36 théâtres qui jouent du théâtre.
Raison de plus pour soutenir
Il vient d'ouvrir son propre théâtre, qui est le Novi Théâtre, et qui fait un peu ce qu'il veut. Et je pense qu'il se protège justement pour protéger ce lieu-là. qu'il a acquis, je crois, chèrement.
Ouais,
il profite en fait du mandat de la maire de Varsovie, qui, elle, est plutôt une libérale au sens anglo-saxon du terme. Et je crois qu'il se protège, oui.
Enfin bon, les nominations, on n'a pas de leçons à donner en France, hein, parce qu'on a suffisamment parlé ici.
On n'a jamais de leçons à donner.
À personne. On a parlé ici suffisamment de nominations dans des théâtres, mais aussi à la Villa Médicis, que ce soit avec Frédéric Mitterrand en son temps, devant une commission qui, elle aussi, avait décidé par avance de qui serait le gagnant, visiblement. Jusqu'à Muriel Mayette, il y a quand même très peu de temps. Là, il n'y a pas de commission ni de jury, donc c'est plus simple. Mais voilà, les faits, évidemment, en Pologne sont très violents et montre un projet politique, ce qui n'est pas le cas à l'évidence pour Emmanuel Mariette. Là, c'est, je parle d'elle parce que c'était une nomination qui a fait beaucoup parler, Fabienne Pascaud, mais on nomme aussi sur le fait du prince.
Oui, bien sûr. Souvenez-vous, à la Villette, Martial, ce comédien...
Jacques Martial, oui.
Jacques Martial.
Reconduit, hein. Il a fait deux mandats.
Bien sûr, il a fait deux mandats. Bien sûr qu'il y a le fait du prince, souvent, de temps, donc, bon. Donc on n'a pas de leçon à donner, effectivement. Voilà. Mais il faut quand même le dire, et c'est très bien qu'on en parle ce soir. Mais je trouve que la solidarité des camarades metteurs en scène, on a beaucoup demandé, on a tous été contactés par l'assistante de Christiane Loupa, qui nous a envoyé des mails, nous a demandé d'en parler, nous a dit que Christiane Loupa était prêt, à nous journalistes bien entendu, était prêt à discuter avec nous. Donc vraiment, les pauvres ont rameuté les médias français, mais j'ai pas vu en retour, moi je les ai pas encore vus, les pétitions d'artistes pour soutenir ce
théâtre. Alors il y en a en Pologne, hein, évidemment, en Pologne même, Agnieszka Holland, je crois, qui était en tête de de cette pétition de soutien, mais c'est vrai que les soutiens se font un peu attendre, Anastasia Galevitch.
J'en sais pas beaucoup plus, hein, mais apparemment...
Vous savez comment se prononce la ville de...
Wrocław.
Bon, ben voilà, Wrocław. Non, mais c'est vrai. On plaisante avec ça, mais l'affaire est sérieuse et méritait effectivement que nous en parlions ce soir. Ainsi se termine cette séquence du Petit Salon. Et je profite de cet entre-deux avant que nous parlions du voyage en Uruguay pour vous demander, Fabienne et Anna, quelques recommandations, peut-être spectacles que vous pourriez conseiller aux auditeurs, auditrices en mal de théâtre en ce tout début de saison. On n'a pas vu encore beaucoup, beaucoup de spectacles, Fabienne, mais vous arrivez à en voir quand même déjà tous les soirs depuis 8 jours, j'imagine.
Exactement. Alors, juste avant d'aller voir le voyage en Uruguay à 21h, on peut aller à 19h au même endroit, à savoir au Paradis du Lucernaire, voir un délicieux spectacle qui s'appelle Pyrénées ou le voyage de l'été 1843, qui est un monologue interprété par Julien Rochefort, un des fils de Jean, et mis en scène par sa talentueuse compagne Sylvie Bleutnikas. Et donc, il y est question du journal de voyage de Victor Hugo, qui à l'époque a 41 ans, déjà plein de succès, 4 enfants, une femme aimante et une maîtresse très dévouée, et qui fait avec la maîtresse le tour des Pyrénées. Il ne parle jamais de la maîtresse, hein, jamais, jamais, il n'y fait la moindre allusion. Ça devait être convenu avec sa femme dès le départ. Et alors, il raconte, et c'est magnifique, la prose de Hugo, elle résonne miraculeusement dans ce petit lieu perché en haut du Lucernaire. Elle est à la fois lyrique et descriptive, elle est dans le commentaire, il sait raconter le cirque de Gavarni, Victor Hugo, mais c'est prodigieux la manière dont il en parle. Moi, franchement, je suis allée à ce spectacle un peu arculant, comme parfois, et j'ai été saisie...
La fameuse méthode Pascaud.
Exactement.
On est arculant et on adore.
Elle est d'une efficacité redoutable.
C'est toujours bien. Ah
ouais. Mais oui, on n'est jamais déçu.
Ah bah,
et alors, non seulement Julien Rochefort a une manière tout à fait flegmatique et dandy, il est seul en scène, hein, avec très peu d'accessoires, juste un tabouret noir, et son timbre, alors il a un timbre comme son père, mais pas du tout le même, mais un timbre très très singulier, plein d'ironie, plein de dérision et plein d'un chic très 19e siècle. Donc, il joue de ce côté un peu désuet, et en même temps, il arrive avec la distance nécessaire à faire rentrer toutes les blessures d'Hugo, puisque Hugo a quelques prémonitions quand même pendant ce voyage, notamment Il va sur la tombe d'un jeune couple qui s'est noyé, donc il y prend un drôle d'intérêt. Et quand il va rentrer, Hugo, eh bien, quand il prend sa malle-poste à La Rochelle, il lit le journal parce qu'il a une longue attente. Et qu'est-ce qu'il découvre dans le journal? Eh bien, que sa fille chérie, Léopoldine, s'est justement noyée cette année-là, il y a quelques jours, avec son mari. Donc ce voyage dans les Pyrénées, après ça... Hugo ne sera plus jamais le même. La douleur est rentrée dans sa vie. Donc, ce sont ses derniers moments d'insouciance dans cette prose lumineuse. Et c'est vraiment magnifique.
Ah bah vous nous donnez envie, Fabienne. Ah oui, vous savez jusqu'à quand ça se joue,
Pyrénées. Jusqu'à
la fin octobre. C'est merveilleux. Bon, une recommandation, Anna Segalevitch.
Oui, pour ceux qui souhaiteraient prendre l'air ce week-end pour profiter des... dernier moment d'été.
Il doit pleuvoir samedi, hein, je vous arrête tout de suite.
Mais bon, mais peut-être pas en Normandie, non, parce que le festival est en Normandie. Voilà, c'est un tout nouveau festival, c'est la première édition qui aura lieu donc les 9, 10 et 11 septembre à Veules-les-Roses, qui est un tout petit village en Normandie, qui a été créé par Lara Marcoux et Marc Fitcock, qui sont, elle est danseuse et comédienne, lui il est comédien, et le principe est un peu le même que celui initié par Samuel Vitoz à Villeréal, c'est-à-dire un festival où les acteurs viennent en résidence dans un village et où ils créent des spectacles, voilà, du théâtre, du cinéma, etc. L'idée c'est vraiment de s'installer dans le village, et il y aura donc 4 créations de théâtre et le tournage d'un film. Le but c'est aussi de tisser des liens entre les artistes et les habitants, de s'inspirer des gens, des lieux, voilà, ça peut être le café comme la plage, et ils sont logés d'ailleurs chez les habitants. Et à Villeréal, donc avec Samuel Vitoz, ça a donné vraiment quelques spectacles fabuleux, avec des jeunes gens très intéressants comme Arthur Igual, comme Damien Mangin, comme Jeanne Candel et Samuel Achage, comme Sarah Le Picard, Camille Pellissier, enfin toute une bande de gens très doués. Lara Marcoux et Marc Vitcock sont allés pas mal à Villeréal, donc c'est un peu comme des petits de Villeréal, et je dois dire qu'il y a des projets qui sont très alléchants, notamment Sarah Le Picard et Nantes Laborde Jourda, j'espère que je prononce bien, qui vont créer un spectacle qui est inspiré du journal d'Eléonore, qui était la femme de Coppola, qui était sur le tournage d'Apocalypse Now, censée faire un documentaire qu'elle n'a jamais fait, mais son journal a été publié, et donc ce sera un spectacle, une création inspirée
elle
de,
l'a fait, le documentaire,
de ça.
Hein.
Ah bon?
Ah bah oui, il existe le documentaire. Bon. Je vous passerai le DVD si vous voulez.
Je viens de dire une grosse bêtise.
Non, je vous en prie.
Pardonnez-moi.
J'en oublie le titre là tout de suite. Mais
le documentaire sur le tournage.
Il existe absolument.
D'accord. Bon, voilà. Bon, j'ai dit une bêtise.
Non, mais...
C'est eux qui ont dit une bêtise dans le dossier de presse.
Vous avez une mauvaise information, c'est pas très grave.
Merci. Et il y aura Sébastien Poudrou de la Comédie Française qui va faire un concert. Il y a une création collective sur l'orgueil mis en scène par Lara Marcoux. C'est des gens qui sont très doués. Et qui prennent le temps et qui mettent de l'énergie à essayer d'inventer des choses. Donc, si on peut, je pense que ça vaut absolument le coup d'y faire un tour.
D'aller où et quand, on le rappelle.
D'aller donc à Veules-les-Roses, un petit village de Normandie, les 9, 10 et 11 septembre.
Très bien. Et puis Sébastien Poudreau, après, il reprendra sa guitare et une très très longue tournée avec Like a Rolling Stone, dont on avait parlé au début d'année dernière.
Comme une pierre qui s'appelait, je crois.
Ah bon?
Ouais.
Ah oui, c'est vrai. Comme une pierre qui est sur la chanson Like a Rolling Stone, en effet, de Bob Dylan.
C'est ça que ça s'appelait comme une pierre.
Vous avez raison. Comme une pierre qui est créée au studio théâtre de la Comédie Française, qui reviendra d'ailleurs en cours de saison, mais ça a été un tel succès qu'il joue partout cette année en France, qui est absolument formidable. Bon. On va poursuivre cette dispute consacrée évidemment au spectacle vivant le lundi soir en nous rendant donc à nouveau au Lucernaire. C'est vrai que ce théâtre a profondément changé aussi avec une nouvelle direction qui ouvre très tôt sa saison avec plusieurs spectacles, ce qui nous arrange en l'occurrence, mais c'est surtout qu'on y a été plusieurs fois la saison dernière et que vraiment la qualité est très souvent au rendez-vous. On va voir ce qu'il en est pour Le Voyage en Uruguay. C'est le premier texte de théâtre qu'a écrit le sociétaire de la Comédie Française Clément Hervieux-Léger. Il est mis en scène par Daniel Sampedro, interprété par Guillaume Ravoir. Et vous savez maintenant qu'en théâtre comme en cinéma, il y a une sorte de bande-annonce.
Lui, c'était Hector Cahorsi. Et Don Hector, il cherchait des vaches. Et pour ça, il avait pris l'avion. Des vaches. Il paraît qu'il en avait déjà des centaines. Et des chevaux aussi, mais il voulait ces vaches-là. Les vaches normandes, blanches et marron. Le départ pour l'Uruguay était prévu au premier jour d'octobre. L'Uruguay. Ben moi, je crois bien que j'avais jamais entendu ce nom-là auparavant. Peut-être une fois, à l'école, lors d'un cours de géographie. Moi, je savais bien que les vaches, elles prennent pas l'avion. Le voyage durerait 2 mois. C'est le docteur ! C'est la tempête ! Le vent est déchaîné ! Avant, à décorner les bœufs ! Les vagues viennent se briser avec force sur la corde du navire ! Tout se met à tanguer ! Normande, c'est pas fait pour le plein soleil!
Alors, l'histoire de cette pièce et de sa création est intéressante avant de vous donner la parole parce qu'elle renvoie à l'histoire personnelle de Clément Hervieux-Léger. Le propriétaire de la ferme dont il est question ici, c'était son grand-père. Ce spectacle, c'est une création de la compagnie des Petits Champs que Clément Hervieux-Léger a créé avec Daniel Sampedro en 2010, qui a pour vocation de jouer le plus possible dans des zones rurales. Alors, même si le spectacle a été créé à Princeton, ce qui est très chic, puis à Château-Vallon où ils étaient en résidence en 2014, il a eu environ depuis 70 dates dans tout lieu, y compris beaucoup de lieux qui n'étaient vraiment pas des salles de théâtre avant que le spectacle donc ne monte à Paris. À noter d'ailleurs que le spectacle sera présenté ensuite à Pont-d'Audemer en novembre, à Plouermel en janvier, à la scène nationale d'Albi, à la Châtre, dans la Manche, en Aveyron, mois de mars. Voilà, continue sa vie, mais on va parler à présent effectivement de ce spectacle. Fabienne Pascaud pour commencer.
Alors, je pense que c'est un spectacle qui a certainement beaucoup plus de charme joué dans une étable, comme il a dû l'être à ses débuts, qu'au Lucernaire, parce que on perd toute la dimension campagnarde, le récit normand authentique qui est arrivé au grand-père de Clément Hervieux-Léger, qui a donc vendu à un grand propriétaire uruguayen 3 taureaux et 2 vaches pour l'aider à constituer son cheptel.
Super race.
Voilà.
Un croisement.
Exactement. Voilà. Et donc, ce que raconte le spectacle, eh bien, c'est le voyage d'un garçon de ferme, d'un vacher, pour amener ces 3 sublimes grosses bêtes en Uruguay. Donc, avec le voyage sur le bateau, tout ce qui peut se passer, la curiosité, la souffrance, la douleur de l'exil, l'émerveillement d'un petit Normand qui débarque au Brésil, en Uruguay, qui découvre tout un art de vie. Et au moment où il devrait épouser la riche héritière, a le mal du pays et décide que c'est mieux d'aller boire du lait normand et qu'il repart chez lui.
Et d'épouser Simone.
Bon, il n'y a pas vraiment de suspense puisque comme il y a des allers-retours présents.
Exactement.
Passés,
alors,
on le sait.
Hein, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture. Voilà, c'est que Clément Hervieux-Léger.
Vous ne divulgâchez pas.
Voilà.
Tout va bien.
Il y a des moments où il revient dans le récit, un récit qu'il a beaucoup entendu raconter quand il était petit, par le grand-père qui finira donc par vendre tout son cheptel. Et donc, Clément Hervieux-Léger, par amour, a écrit cette pièce pour être joué même dans l'étable même.
C'est le siège de la compagnie.
Exactement, c'est le siège de la compagnie. Donc, on voit l'importance que peut avoir pour lui cette histoire fondatrice, proustienne. Pour le spectateur, il y a moins de charme. Hein. On a beau se dire qu'il intervient dans le récit, qu'il y a des effets de miroir, des mises en abîme. Bon, ça reste une histoire de garçon vaché avec 5 grosses bêtes, quoi. Donc c'est bien, c'est sympathique. Vous ne me ferez pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais on passe un beau moment. On ne s'ennuie pas. Il y a l'esthétique palette omniprésente. Il y a des ne riez pas, non. Sinon je vais m'éclater. Aussi. Bon. Il y a des meules de foin, Non, j'ai passé un bon moment, c'est très bien joué par un très joli garçon qui s'appelle Guillaume Ravoir. Je ne crierai pas au chef-d'œuvre pour autant.
Très bien, on a compris votre point de vue. Quel est celui d'Anna Segalevitch à présent?
Pas très éloigné de celui de Fabienne. Bon, mais
Voilà, c'est un joli spectacle à plusieurs égards. Donc il y a ce comédien, je trouve d'abord vraiment Guillaume Ravoir, qui est absolument lumineux en scène, qui avec beaucoup de simplicité, je trouve, et de générosité, fait tout passer. C'est-à-dire la joie, l'excitation, l'inquiétude, la fatigue, le sentiment d'isolement. Il donne vraiment à voir la tempête, la mer, le voilà. On fait vraiment, je trouve, cette traverser avec lui. Il est très physique sur scène, sans jamais être démonstratif. Et c'est quand même aussi le talent, je pense, de Daniel Sampedro. J'avais déjà ressenti ça dans son précédent spectacle, Yerma. C'est-à-dire qu'il donne concrètement à ressentir, je trouve, ce qu'éprouvent les personnages. Il y a quelque chose de l'ordre du théâtre de sensation qui est pas mal.
Yerma, c'était un beau spectacle. On l'a vu au 4-13 avec Audrey Bonnet, notamment.
Oui, absolument. Et je trouve que, voilà, par exemple, quand il découvre l'ananas, on sent vraiment le goût de l'ananas, on imagine l'ananas quand il va prendre une bouteille d'eau parce qu'il est complètement assoiffé, déshydraté et qui boit cette, et il y a l'eau qui coule et qui boit comme ça, on le sent vraiment se désaltérer. Quand il tire une corde, on imagine la vache derrière. Et donc de façon simple avec ce décor,
vous faites rire à Fabien.
C'est pour ça que je ne la regarde pas. Exprès. De façon simple, avec ce décor très simple, je trouve que voilà, ça raconte des choses. Et puis quand même, qu'est-ce que le théâtre ? C'est quand même une traversée et un voyage. Et c'est aussi, je pense, Clément Hervieux-Léger, c'est une façon de parler du théâtre aussi, ce récit. Parce qu'il y a un élément même qui souligne ça, c'est quand à la fin, il y a un hublot avec le bateau. Pardon, à l'intérieur. Ben, ce hublot, en fait, il ressemble à une table de maquillage de théâtre. Donc, je pense que voilà, c'est pas anodin. C'est un spectacle qui a plein de jolies choses et que j'ai vu avec plaisir. Même si je suis d'accord, c'est pas du tout un grand texte. Ça manque un peu de facture. Enfin, voilà, ça manque un peu de tenue et de style, je trouve, le texte, mais. C'est un joli voyage.
Alors, joli voyage, moi j'en dirais même un peu plus. Je souligne, et encore comme vous, les qualités de Guillaume Ravoir, parce que c'est quand même toujours un test au théâtre. Moi j'ai été pris dès la première phrase et jusqu'à la dernière. On n'est pas aussi souvent bien accompagné. Parfois on peine un peu à entrer dans un spectacle. Là, il nous embarque tout de suite. Alors la direction de Daniel Sampedro n'y est sans doute pas pour rien. Et puis il connaît bien Ravoir, puisqu'il a déjà dirigé et joue ensemble actuellement. Actuellement non, parce que M. Pourceaugnac continue sa tournée, mais Guillaume Ravoir, il est au Lucernaire. Donc il ne peut pas aller en Chine, parce qu'en ce moment c'est en Chine, M. Pourceaugnac, mis en scène par Clément Hervieux-Léger. Et moi j'avais beaucoup aimé le décor d'Aurélie, parce que je trouve qu'il répond à pas mal d'exigences et que ça change quand même beaucoup de choses. Cette salle du paradis, vous en parliez, toute petite salle, donc le paradis, parce que c'est vraiment sous les toits du Lucernaire.
De nombreux escaliers.
Elle est souvent quand même pas pratique, parce que c'est le plateau, c'est le sol, quoi, normalement.
Il y a une acoustique formidable.
Il y a une très belle acoustique, c'est vrai, mais d'avoir juste ce petit tréteau, un théâtre de tréteau, de palette, vous disiez tout à l'heure, ça change beaucoup de choses, parce que c'est vrai que ça, il n'y a pas un équipement qu'offrent normalement les salles de théâtre plus élaboré, et je trouve qu'on est on est bien dans cet espace, et que l'estrade, cette toute petite hauteur, change beaucoup de choses. Il y a ce débarcadère, il y a des changements de lumière très très fréquents et quand même très bien ordonnés. Donc ça, c'est les lumières, c'est Alban Sauvé, je le cite également, parce que je trouve que c'est un beau travail précis. Et citer ces noms, c'est important, parce que je crois que c'est vraiment aussi un travail de troupe, de gens qui travaillent ensemble depuis longtemps, qui se connaissent bien, et je crois que ça se ressent aussi à la vision du spectacle, qui permet de décoller, de nous embarquer véritablement. Voilà, je vous dirais pas que c'est le spectacle de l'année, mais franchement, j'en verrais plus souvent
Mais encore une fois, je pense que c'est un spectacle qui gagnerait à être vu dans son jus, quoi, vraiment dans une étable, en Normandie, et ça. Mais, quel est l'intérêt peut-être, alors là, de l'amener au Lucernaire, c'est bien, on l'a vu, mais je suis sûre que...
Vous irez à Pont-de-Mer en novembre ou à Plouermel en janvier?
Non, mais peu importe, les correspondants locaux iront. Oui. Non, mais c'est vrai, cette folie d'être joué à Paris, c'est bien, mais ça serait bien aussi que ça reste là-bas, quoi.
Non, je ne partage pas du tout votre sentiment.
Ben si, parce que c'est fait pour être créé à la campagne. C'est fait pour être que quand on sorte, on voit des vaches. Ça fait partie de la magie du truc. Donc pourquoi vouloir le transplanter ?
Parce que ça nous fait voir des vaches à Paris. C'est ça qui est formidable.
Et c'est ça qui est... Alors, ce qui est marrant, donc vous l'avez pas ressenti apparemment comme ça, Fabienne, mais l'acteur racontait, donc Guillaume Ravoir, racontait que à tous les endroits où ils l'ont joué, et pourtant dans des configurations extrêmement différentes, tous les spectateurs disaient « Ah mais attendez, vous pouvez pas le jouer ailleurs, c'est ici que ça doit jouer, ça a été créé pour ici. » Donc bon, c'est moi je pense justement que c'est un spectacle. Bon évidemment,
ça a beau s'appeler rue Notre-Dame-des-Champs, c'est quand même pas effectivement le Cernaire le meilleur endroit.
C'est la compagnie des petits champs.
C'est la compagnie des petits champs, on est d'accord. Mais moi je comprends pas bien votre réserve sur le fait de venir jouer à Paris. Il faut monter à Paris. Pour ce spectacle-là, comme pour l'autre,
je pense qu'il y a des spectacles pour des lieux et que des spectacles qu'il ne faut pas déraciner et que venir être joué à Paris, c'est pas forcément le fin du fin, quoi.
Bon, moi je suis content que ça puisse donner à ce spectacle une autre visibilité.
Mais encore une fois, j'ai vraiment été scotchée par le comédien qui passe d'un rôle à l'autre en un quart de seconde, qui passe du petit-fils qui se souvient au garçon vaché aux prises avec l'océan et ses vaches et ses taureaux. Il est quand même assez prodigieux.
Bon, rendons grâce à Guillaume Ravoir.
Et au spectacle entier, même.
Et au spectacle, oui. J'allais y venir, Le Voyage en Uruguay, de Clément Hervieux-Léger, mise en scène Daniel Sampedro, interprété, de, je le rappelle, par Guillaume Ravoir. C'est à l'affiche du Lucernaire jusqu'au 15 octobre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et avant de conclure cette émission par un coup de fil passé à Catherine Bizouarne, le jeu de la dispute, on commence par un petit rappel, le jeu de vendredi soir, Lucille Como.
La question était, en 1996, Madonna interprétait Eva Perón dans Evita, un film d'Alan Parker, rôle dans lequel elle fut acclamée et pourtant ce n'était pas le premier choix du réalisateur. Quelle actrice était pressentie? Et la réponse était Michelle Pfeiffer.
On a une enquête d'ailleurs à mener sur Michelle Pfeiffer, on en a parlé après au bureau, il faut qu'on y travaille. On fait gagner ce soir des invitations pour le festival América, littérature et culture d'Amérique du Nord, c'est du 8 au 11 septembre à Vincennes. Quelle est la question, Lucine?
Le romancier James Ellroy est un des invités du festival América. Son dernier roman s'appelait Perfidia. L'action se déroule à Los Angeles au moment de l'attaque de Pearl Harbor. Quelle communauté est au centre du roman?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeur@radiofrance.com. Et puis une autre enquête qui a abouti, le film d'Eleanor Coppola. Il s'appelle bien Au cœur des ténèbres. Je me souviens, 1991, la date de sortie de ce documentaire sur le tournage d'Apocalypse Now. Place à présent au coup de fil de la dispute passé par Lucille Como.
Hello.
Et on inaugure une nouvelle saison de coup de fil en téléphonant à Blois. Bonsoir Catherine Bizouarne.
Bonsoir.
Vous dirigez depuis 2008 la scène nationale de Blois, aussi appelée la Halle aux Grains. La Halle aux Grains qui est un très beau bâtiment situé dans le centre-ville de Blois, comme son nom l'indique. C'est une ancienne halle flanquée de tourelles. Alors vous êtes une des premières scènes nationales à ouvrir le bal, puisque vous ouvrez la saison avec un premier événement qui commence très tôt, vendredi prochain, qui porte bien son nom, Un été sans fin. Est-ce que vous le considérez comme une sorte de festival?
Oui, c'est un petit festival de rentrée pour permettre au public d'entrer tout doucement dans la saison. Et c'est très très apprécié d'ailleurs par le public. C'est un événement que j'ai souhaité mettre en place dès mon arrivée à Blois. Au départ, en fait, cette idée, c'était d'inviter le public et les publics et aussi ceux qui ne viennent pas forcément comme en tant qu'abonnés dans la saison. C'était de leur proposer de découvrir du spectacle vivant. Alors donc le premier principe de départ, c'est que c'est vraiment pas cher puisque c'est 5 € la place, et donc le temps d'un week-end où il y a 5 spectacles, et puis il y a aussi des choses gratuites à l'extérieur, on peut se permettre de découvrir le spectacle vivant dans toutes ses formes et des formes aussi très populaires et contemporaines. J'y tiens beaucoup. Il peut y avoir de la musique, mais il peut y avoir aussi de la danse, du théâtre, beaucoup de théâtre et aussi du cirque parfois.
Parmi ces spectacles, il y a une création qui s'appelle La Paix. C'est du théâtre oui. antique sur Tréteaux, une mise en scène de Lazare Herson-Macarel, dont on avait vu un très bon spectacle, je me souviens, un spectacle jeune public d'ailleurs, il y a quelques années à Avignon. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ce spectacle-là?
Alors l'année dernière, on avait déjà accueilli du groupe du Nouveau Théâtre Populaire, on avait déjà accueilli Gargantua, qui est aussi une formidable proposition, qui a énormément plu au public et qui depuis fait nous aussi une belle carrière. Et donc on souhaitait poursuivre cette aventure-là. Il se trouve que le festival du Nouveau Théâtre Populaire génère depuis l'année dernière donc un spectacle qu'ils appellent pour la tournée des Vendanges. Et on s'est inscrit dans cette tournée et c'est une façon pour nous aussi d'aider cette jeune création. Donc c'est un spectacle qu'on a acheté à l'avance, comme on dit, qui reprend à partir d'une trame antique qui est revue au goût du jour, mais qui est jouée sur Tréteaux dans une forme de relation publique assez simple et sans fioriture, en faisant participer aussi le public, parce qu'il y a un chœur amateur qui intervient dans le spectacle. Donc ça, je trouve que ça va très très bien avec ce qu'on voulait faire de l'été sans fin. C'est-à-dire que ça rejoint à la fois quelque chose de l'ordre d'une culture plus savante, mais vraiment en lien avec un public plus populaire.
Alors très vite après, à partir du 3 octobre, on pourra avoir une autre création. Le titre est très beau. Léonie est en avance, que l'amour doit donc être doux, dans une mise en scène de Thomas Gobiac. C'est une des dernières pièces, c'est à partir d'une des dernières pièces de Feydeau. Un texte extrêmement grinçant. Est-ce que le spectacle est aussi cruel que le texte, Catherine Bizouarn?
Bah bon, je peux pas encore, il est pas sorti, la création elle va être faite, la première date ce sera le 3 octobre et je pense que ça va être assez grinçant, oui, connaissant le travail de Thomas Gobiac. Alors Thomas, il a un univers comme ça très caustique. En même temps, il travaille ses mises en scène avec beaucoup de précision. Il a des inspirations qui lui viennent beaucoup du burlesque, de Jacques Tati, de Marteller aussi. Donc c'est avec un univers sonore et des partitions à jouer très précises pour les comédiens. Et je pense que ça va vraiment être un Feydeau un peu cruel, on va dire.
À l'honneur aussi, vous mettez dans parmi tous les événements de votre programme quelque chose qui aura lieu autour de la sape. La sape, qui est cette pratique du vêtement extrêmement ritualisé. Je crois que ça vient du Congo-Brazzaville à l'origine. À quoi ça va ressembler, ça, à Blois, Catherine Bizouarn?
J'espère. ça va ressembler. C'est un projet qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Il y a un temps fort qui est daté dans la saison fin janvier, effectivement, pour un grand défilé, un grand bal des sapeurs, associé à une création chorégraphique dirigée par De La Vallée Bidifono, qui est un chorégraphe congolais. Il n'est pas précisément sapeur, lui, mais bon. En tout cas, qui travaille avec un groupe de jeunes danseurs blaisois, et ça avance plutôt bien. Et c'est un projet qui s'articule aussi avec les quartiers, et donc je travaille avec des gens du quartier, des vrais sapeurs, des vieux sapeurs, des plus jeunes, un groupe de femmes qu'on a appelé la commission des femmes. Enfin, tout ça constitue une espèce de comité de pilotage avec lequel nous travaillons. On va aussi réaliser un shooting photo avec Charles Frégé, qui est un photographe d'art, un portraitiste extraordinaire, au château de Blois. Enfin voilà, c'est un projet qui devient qui est de plus en plus important et je pense que ce sera un véritable événement.
Merci. Merci beaucoup Catherine Bizouarn. Je rappelle que vous dirigez la Halle aux Grains, scène nationale de Blois. Un été sans fin commence vendredi 9 septembre prochain et puis Léonie est en avance, que l'amour doit donc être doux. C'est du 3 au 11 octobre.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Fabienne Pascaud, Anna Sigalevitch et Lucille Comeau, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sur notre émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Un site sur lequel aussi vous pouvez bien sûr nous écrire. La dispute est possible grâce à Lucille Comeau, Daniel Finot, Olivier Guérin, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Pinault qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation signée Olivier Guérin. Et je vous retrouve demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Charlotte Garçon, Thierry Chaise et Antoine Guillot. À notre affiche, Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, Divine de Houda Benyamia et France de François Ozon. Tout cela, c'est pour demain. D'ici là, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, votre nouveau rendez-vous, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.